Vous écoutez Radio Campus, Lille 1 Info, c'est le magazine consacré à l'Université Lille 1 tous les mercredis à 17h30 jusqu'à 18h. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hélène Solos, donc, qui est responsable de la communication recherche à la DIRVED. La DIRVED étant une des structures de l'Université Lille 1. Bonjour Hélène Solos.
Bonsoir René, contente de vous retrouver.
Ben voilà, moi aussi. Donc c'est l'émission de rentrée, on va dire.
Ben oui, en fait, comme on le sait, Lille 1 Info consacre un mercredi par mois des sujets de recherche. Et en faisant la programmation de ces différentes émissions, on s'est dit pourquoi pas faire une introduction en resituant un peu le contexte de la recherche à Lille 1. Parce que comme on le sait, ça change tous les 4 ans avec le quadriennal. Donc il y a quelques petites modifications. C'est une présentation qui sera simplifiée, donc on n'apprendra pas grand-chose aux enseignants-chercheurs et au personnel de recherche, mais par contre c'est très utile de connaître le fonctionnement pour les étudiants ou les autres catégories de personnel.
Voilà, donc une université digne de ce nom, en gros, a deux grands domaines de compétences et de responsabilités, c'est l'enseignement et la recherche.
Voilà, oui.
Donc là, aujourd'hui, on est dans le cadre de cette recherche à Lille 1. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières ? Bon, j'imagine qu'au départ, une université sciences, technologies, sociologie, ça donne des espaces, des horizons de travail hein, qui sont dans certains axes par rapport à d'autres comme l'île 2, l'île 3.
Oui, donc on peut faire effectivement un rappel sur les thématiques. Il y a quelques... Enfin, avant le... Pendant le quadriennal précédent, c'était découpé en secteurs, tout simplement. Là, il y a eu un changement dans l'architecture. Ça s'est regroupé pour certains en institut, mais quand on parle d'institut, c'est pas physiquement parlant, c'est plus dans le sens pôle de recherche. Mais bon, on va retrouver donc les thématiques des STIC. Il y a tout un regroupement qui concerne les molécules et matières condensées, les sciences de l'environnement, la biologie et biotechnologie, les sciences humaines et sociales. Et il y a des laboratoires aussi dans le domaine de la mécanique, de la physique et des mathématiques.
Voilà, donc pour les grands champs, on va préciser la DIRVED, ce que ça veut dire en fait, en clair, et ses missions également.
Donc la DIRVED, c'est la Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Études Doctorales. Donc elle est composée de deux grands services, le service Recherche et le service Valorisation. Donc on va peut-être y revenir un petit peu tout à l'heure au niveau du service Recherche, parce qu'il vient en appui aux laboratoires pour porter leur projet normalement, notamment au niveau du quadriennal. Et donc, ce qui serait bien, c'est d'expliquer un peu avant tout le cheminement.
Alors, tout d'abord, quand on dit quadriennal, ça veut dire donc sur 4 ans, hein, par définition.
Oui.
Donc, je suppose que tout ça, c'est négocié et négociable avec qui comme partenaire ?
Oui, donc effectivement, il y a tout un contexte politique. Hein, le quadriennal, donc, c'est un projet d'établissement. Donc là, on va parler plus précisément des laboratoires. Donc ça se fait tous les 4 ans. C'est entre le ministère, mais aussi les établissements scientifiques et technologiques comme le CNRS notamment. Enfin, et tous les 4 ans, les laboratoires déposent un dossier, un projet, donc, qui est essentiellement fait de deux parties. Une partie qui concerne le bilan des 4 années écoulées et une partie qui va plus porter sur le projet, sur les 4 ans à venir. Donc ça, c'est le point de départ. Donc je vais essayer d'être claire, parce qu'il y a aussi une agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui intervient au niveau de ce quadriennal. C'est-à-dire que maintenant, au bout de 3 ans, la dernière année du quadriennal en cours, l'AERES intervient pour évaluer les laboratoires, donc évaluer le bilan, mais aussi les perspectives au niveau du projet. À l'issue de cette évaluation, Il y a une note qui est déterminée par l'AERES et ça va servir donc au ministère et aux établissements comme le CNRS de repère un peu pour pouvoir attribuer les labels au laboratoire.
D'accord. Et ça détermine aussi les nouveaux projets. Est-ce que dans ce cadre-là, les orientations qui sont définies correspondent à la conjoncture, on va dire, au progrès ou aux besoins ou aux grands axes gouvernementaux ?
Oui, mais c'est basé donc sur la stratégie nationale de recherche et d'innovation. Hein, donc, au niveau des perspectives, c'est plutôt, enfin, il est recommandé d'augmenter la lisibilité, l'attractivité, donc notamment au niveau des doctorants, les attirer par l'excellence de la recherche. Et il y a aussi une autre tendance qui est fortement encouragée, c'est la fusion, c'est-à-dire diminuer le nombre d'unités de recherche et plutôt encourager les regroupements.
D'accord. Donc quand on dit fusion, ça n'empêche pas des créations ? De laboratoires, par exemple ?
Oui, alors maintenant, elles sont fortement... Donc, les créations de laboratoires, elles sont fortement encouragées par la fusion. Mmh. Hein, donc là, par exemple, à l'INA, on peut citer des exemples. Dans le secteur de la chimie, il y a à peu près 6 ans, on avait 6 unités. Mmh. Et aujourd'hui, on en a 3. Donc, pareil pour les mathématiques, il y avait 3 laboratoires. Maintenant, c'est regroupé dans un seul laboratoire qui est d'ailleurs un des plus grands de France, qui est le laboratoire Paul Painlevé.
Alors, on comprend bien que c'est une évolution. Est-ce que pour autant, c'est un progrès que de fusionner ?
Je pense que oui, parce que de toute façon, c'est toujours dans l'optique de mutualiser des moyens. Donc, ça renforce forcément l'excellence et l'attractivité.
Mmh. Est-ce qu'on peut dire aussi que ça, en termes d'attractivité, avoir des laboratoires qui ont une taille critique, peut-être qu'on peut la définir, hein, mais ça dépend aussi des contextes et puis des spécialités. Hein. On peut parler de taille critique pour un laboratoire ?
Alors là, c'est ce genre de considération, je ne peux pas vous en dire beaucoup. C'est vrai que ça correspond... Bon, il y a des critères, certainement. Mmh. Hein, donc,
mais quand on voit que la recherche est mise en perspective au niveau international, effectivement, on peut imaginer que des pôles concentrés ont plus de force de frappe, non ?
Oui, c'est ça, c'est l'objectif, hein, mmh. De toute façon. Hein. Donc, au niveau de... Enfin, j'aimerais bien revenir aussi sur la création d'un laboratoire, donc mmh. suite à ce quadriennal. Donc, il y a une évaluation qui est faite par l'AERES. Il y a 4 critères d'évaluation donc, qui sont pris en compte. C'est la qualité de la production scientifique, le rayonnement et l'attractivité dans l'environnement. Donc, la capacité à recevoir des chercheurs internationaux, par exemple, la durée de thèse et doctorant. Il y a aussi la stratégie et la vie du laboratoire, la gouvernance et l'estimation du projet. Donc, à partir de là, les dossiers du quadriennal sont évalués, donc avec pour référence cette évaluation. Et il y a des labels qui sont attribués. Mmh. Et donc après, il y a toute une série de labels, de statuts de laboratoire qu'on peut essayer d'expliquer aussi le plus simplement possible, parce que c'est assez vaste.
Quand on dit différents statuts, ça veut dire que chacun peut avoir une certaine identité spécifique.
Oui, selon le projet du laboratoire. Donc il y a des labels qui sont décernés par le CNRS. Il y a aussi des labels qui sont décernés par le ministère. Donc, par exemple, si on prend le CNRS, le plus courant au niveau des laboratoires, c'est le statut d'UMR, unité mixte de recherche. Donc là, ça implique l'établissement, le CNRS, et aussi parfois d'autres partenaires extérieurs. C'est le plus courant. Au niveau de l'ILA, on en a 39.
Ça veut dire que quand ce label est décerné, le CNRS appuie le
Oui, le CNRS apporte du soutien financier, mmh. apporte aussi du personnel.
D'accord.
Donc, il y a plusieurs... Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de s'y retrouver. Au niveau du CNRS, il y a ensuite, là, ce qu'on a au niveau de l'ILA, ce sont des formations de recherche en évolution. Donc, Là, c'est un. On peut prendre l'exemple d'un laboratoire qui n'a pas le statut du MR, mais qui souhaite le devenir. Mmh. Et donc, quand ce cas de figure se présente, il a normalement un label du ministère qui est équipe d'accueil.
D'accord.
J'essaie d'être simple.
Oui,
parce que
c'est...
Et c'est... donc, il dépose un dossier pour avoir le label UMR. Et le CNRS décide de faire un test pendant 2 ans. Donc, il attribue ce statut de formation de recherche en évolution pour une durée de 2 ans, mm-hmm. pour voir un peu comment ça se passe. Donc, ça, c'est le principal, la principale caractéristique de la FRE. Mais il y en a aussi d'autres, mais on peut passer toute la soirée à discuter des différents cas de figure. C'est pas non plus l'objectif. Donc ça, ce sont vraiment des laboratoires proprement dits. Mmh. Et ensuite, nous avons aussi des unités de services et de recherche qui sont aussi des laboratoires. Alors là, par contre, ce sont des laboratoires qui ont tendance à perdurer, donc qui sont en dehors du quadriennal, qui peuvent durer plus de 4 ans. Et donc, qui disposent de locaux. Donc, chez nous, par exemple, on a l'IRSICA, on a l'IRI, hein, à titre d'exemple, et qui constituent des moyens et qui des équipements pour accueillir des équipes de labos, donc des UMR, pourquoi pas. Mmh. Donc, c'est toute une architecture qui est assez... qui peut paraître complexe pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu. Mmh.
Donc, l'ensemble de ces laboratoires constitue l'architecture de la recherche de l'Université Lille-1. Est-ce que tous ces laboratoires sont parfois amenés à travailler ensemble, certains d'entre eux, tout au moins?
Ah oui, bah, ils collaborent selon leur thématique, mmh. bien entendu. Hein, donc,
la recherche n'est pas cloisonnée?
Non, on n'est pas cloisonnée. D'ailleurs, on encourage, la fusion est encouragée. Donc, c'est ce qui s'est passé en chimie. Il y a eu la création de l'UMET, Unité de matériaux et transformation, qui a repris certains, on va dire, morceaux de plusieurs laboratoires en chimie. Hein.
Donc l'administration, elle se fait d'un point de vue central ou chacun de ces laboratoires est autonome? La gestion.
Ah, au niveau de la gestion, ils sont autonomes, mais bon, ils relèvent de leur tutelle. Donc, par exemple, une UMR dispose d'un budget CNRS et d'un budget de l'État. Donc, mais bon, ils ont leur autonomie, oui.
Est-ce qu'on peut comparer à d'autres universités de spécialités équivalentes en France? L'Université Lille-1 se situe comment? Grosse, petite, moyenne?
C'est plutôt une grosse université. Et après, bon, il y a vraiment... Donc là, ça va certainement s'accentuer avec le temps, mais il y a vraiment des thématiques qui sont vraiment réputées d'excellence. Par exemple, Lille-1, les nanotechnologies, c'est quelque chose vraiment... c'est un domaine où Lille-1 est de très, très grand niveau, voire d'excellence, quoi.
Est-ce qu'on s'aperçoit déjà des effets du soutien plus particulier de l'État depuis ce projet qui était déposé, qui était reçu au niveau de Lille, tout ce gros projet?
De quel projet vous parlez, René?
Il y a un dossier qui avait été déposé par Lille-1 et qui a été reçu par l'État pour être financé. Non,
le projet Le Grand Emprunt, il y a pas mal de projets.
C'est ça, celui-là,
bon, là, il commence à avoir des dossiers qui sont déposés, notamment pour du matériel, etc. Il y a vraiment des choses qui commencent à se faire. Et donc, c'est là qu'intervient la DIRVED, en fait, au niveau des montages.
Donc, ces projets de grand, par rapport au grand emprunt, ils sont spécialisés dans des domaines très pointus ou ils sont assez larges?
Alors, moi, je n'ai pas vraiment connaissance précise des dossiers. Je sais qu'en ce moment, il y a des projets qui sont déposés pour des grands équipements. Mmh. Moi, en l'occurrence, au niveau de la DIRVET, je suis plus au niveau des affaires doctorales. J'assure la communication au niveau des laboratoires, mais au niveau de la DIRVET, c'est vraiment spécifiquement le service recherche qui a connaissance de vraiment tous les appels à projets. Et ce service, donc, qui est dirigé, j'en profite pour le dire, c'est dirigé par Claude Naudot.
Est-ce qu'il y a des domaines particuliers de la recherche qui sont abordés nouvellement cette année à Lille 1? Est-ce qu'il y a de nouveaux champs de recherche?
Il y a une tendance, je pense, qui est générale, c'est tout ce qui est développement durable. Et puis, de toute façon, c'est sans cesse renouvelé. Il y a des nouvelles thématiques qui apparaissent. Donc là, il faudrait vraiment se creuser au niveau des laboratoires. Et je pense qu'on ne peut pas, ici, là, sur une demi-heure, aller décortiquer tout ça. Mais oui, avec la conjoncture, de toute façon, il y a des nouvelles thématiques qui apparaissent.
Quand c'est la rentrée universitaire comme ça, est-ce que ça change quelque chose pour les laboratoires ou est-ce qu'ils fonctionnent en permanence, quelle que soit la période de l'année?
Les laboratoires fonctionnent en permanence. Bon, la rentrée, ça peut être aussi pour eux l'accueil de nouveaux doctorants, parce que la recherche, c'est aussi les doctorants. Donc là, il y a des nouveaux doctorants qui arrivent. Donc ils sont accueillis au sein des laboratoires pour développer un sujet de recherche pour une durée de 3 ans.
Non, des sociologues se sont penchés un peu sur les étudiants qui étaient à Lille 1 l'année dernière, par exemple. Il y a une exposition au SUIU en ce moment qui est tout à fait intéressante. Et donc cette réflexion aussi fait découvrir que beaucoup d'étudiants maintenant considèrent leurs études comme au départ devant être longues. Autrefois, souvent, c'était pour avoir une licence. Maintenant, déjà, ils pensent au master avant de s'inscrire à l'université. C'est nouveau.
Écoutez, j'ai pas eu connaissance de cette exposition. Maintenant, un étudiant qui arrive au niveau de l'université, il a quand même déjà, au cours de la première année, une idée du parcours qu'il veut effectuer, effectivement.
Donc l'exposition, c'est l'université à première vue, c'est au SUIO actuellement.
Oui, merci pour l'information.
Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, on voit des témoignages d'étudiants qui sont à la fois écrits et aussi en photo, puisqu'il y a un photographe s'est prêté au jeu. Et chaque étudiant, donc 40 étudiants, se sont prêtés un peu à ce jeu d'expliquer comment ils ont vu leur vie à l'université pendant l'année dernière. Et donc l'idée, c'est de restituer ça aux générations qui suivent.
Et donc dans cette enquête, il y a des doctorants qui...
Alors non, mais l'idée que des étudiants aient comme perspective des études longues, ça change un peu la donne au niveau de l'accueil peut-être, et puis aussi de vos perspectives.
Parce qu'au niveau de la recherche, donc il faut forcément, au niveau des doctorants, maintenant il y a plusieurs possibilités aussi. Il y a le parcours entre guillemets dit académique, c'est-à-dire la vocation à devenir enseignant-chercheur, mais il y a aussi la possibilité de faire une carrière autre qu'enseignant-chercheur dans le privé, dans la création d'entreprise.
Donc, on l'a vu, est-ce que cette recherche faite à Lille 1 par des doctorants leur permet parfois de démarrer une carrière en recherche dans Lille 1 et puis après d'aller à l'extérieur vendre leurs services, leurs compétences?
Alors, au niveau de l'INA, il y a toujours des postes de maître de conférence qui font partie de la campagne des emplois. Il y a des doctorants qui ont la chance d'y avoir accès. J'ai plus les chiffres en tête, mais bon, ça représente très peu. Donc, ils peuvent envisager de poursuivre leur carrière dans d'autres... Enfin, il y a la possibilité de faire des post-docs aussi. Après, c'est... Mais c'est très... Enfin, les chances au niveau de Lille 1, enfin de Lille 1 et d'autres établissements, parce que ça c'est vraiment général, il y a très peu de possibilités offertes, le pourcentage est faible de pouvoir offrir aux doctorants de pouvoir rester, d'effectuer sa carrière au sein même de l'université.
Donc on peut dire que l'université, en gros, les laboratoires plutôt, ne recrutent pas ou recrutent des chercheurs actuellement? Et dans quel domaine?
Il y a une campagne d'emploi tous les ans, donc qui concerne tous les laboratoires. Donc il y a le recrutement de maîtres de conférences, le recrutement de professeurs.
Ça se fait à quel moment à peu près ces recrutements?
Je pense que c'est c'est vers l'été ou l'automne. Enfin, je sais plus. Il y a tout un processus aussi qui se fait. Donc là, c'est vrai qu'avec tous les changements qu'on a eu dernièrement, on n'est plus dans le circuit. Il y a aussi le CNRS quand il est impliqué dans un laboratoire ou un autre établissement public scientifique et technologique qui peut mettre à disposition des personnels.
Est-ce qu'il y a des laboratoires qui recrutent davantage que d'autres, qui ont des besoins vraiment actuels?
Les besoins, je crois qu'ils en ont tous. Hein. Si vous posez la question au laboratoire, ils ont tous des besoins. Après, bon, c'est pareil, les critères d'attribution de postes, ça fonctionne
un
peu comme
attribution
les...
attribution de postes, il faut aussi des financements qui...
Voilà, c'est, enfin, je veux dire, l'État attribue autant de supports pour autant tel domaine, donc c'est quand même assez...
Qu'est-ce qui est favorisé actuellement par l'État en termes de...
Ah, ça, je ne saurais vraiment pas vous dire, parce que ça relève vraiment de la politique des ressources humaines, quoi. Donc là,
On y reviendra.
On y reviendra et j'essaierai d'apprendre ma leçon pour la prochaine fois.
Non, on y reviendra avec les ressources humaines. Voilà, donc sinon cette rentrée globalement, il n'y a pas encore eu la conférence de presse du président pour définir comment elle se passe, mais peut-être déjà avoir un avant-goût.
Ça ne saurait tarder, donc là c'est plus le service communication, si tu es désolée.
Tout à fait. Bon, on y reviendra également. Donc on va conclure sur cette recherche à Lille 1, où vous avez signalé qu'elle était dynamique et donc organisée sur des périodes longues de 4 ans, etc., avec d'autres structures qui sont là, je ne sais pas si on peut dire ad aeternam, mais qui sont ancrées dans l'université Lille 1. Est-ce que vous envisagez éventuellement des modifications, d'intégrer de nouveaux laboratoires dans des futures années? Est-ce qu'il y a des projets qui sont dans ce domaine?
Les projets, je pense qu'ils seront réfléchis déjà bien en amont. Et puis, il y aura certainement toujours cette tendance à fusionner. Il y a des laboratoires qui ont été encouragés à fusionner. Ça va se renouveler sans cesse. Et je voudrais bien... ajouter quelque chose au niveau de toutes ces unités de recherche, toute cette articulation au niveau des thématiques. Il ne faut pas oublier non plus que les écoles doctorales jouent un rôle important dans cette architecture, hein, puisque chaque unité est rattachée à une école doctorale.
On peut peut-être préciser ce qu'est une école doctorale.
Les écoles doctorales, leur nom l'indique, sont chargées de la formation des doctorants, de leur insertion professionnelle, de l'attractivité de tout ce qui concerne les doctorants. Et elles jouent un rôle, justement, elles sont... Comment dire, elles interviennent dans tout ce qui est financement de doctorants, elles statuent, elles sélectionnent les doctorants. C'est dans ce contexte-là qu'au niveau de l'ILIN, chaque laboratoire qui est reconnu est rattaché à une école doctorale.
Ces écoles, elles ont des noms particuliers ou bien ce sont des structures
Chez nous, il y a 4 écoles doctorales où l'ILIN est co-accrédité. Donc il y a Sciences de la matière, du rayonnement et de l'environnement, SMRE, le sigle SMRE. Sciences pour l'ingénieur, SPI. Biologie santé et CESAM, donc tout ce qui concerne les sciences économiques et aménagement. Et alors, il faut préciser que les écoles doctorales sont pluri-établissements, donc elles n'ont pas d'appartenance à tel ou à tel établissement. Elles sont constituées d'établissements co-accrédités, donc au niveau régional.
D'accord. Donc, en clair, plusieurs universités se retrouvent dans ces structures.
Et donc, au niveau du PRESS, maintenant, les écoles doctorales...
Le PRESS, qui veut dire
Pardon ?
Presse, c'est le pôle.
Alors, c'est l'Université Nord-de-France, le nom de notre presse.
C'est écrit, ça veut
dire. C'est pas pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
Voilà, on essaye de décoder un peu à Radio Campus.
Ça y est, j'ai trouvé la réponse.
Merci, Hélène Solos.
Mais écoutez, ce fut un plaisir. Et puis, on essaiera d'approfondir tout ça la prochaine fois.
Pas de souci. Excellente soirée à l'écoute des programmes de Radio Campus. C'était donc Lila Info que vous retrouvez chaque mercredi. Maintenant, depuis aujourd'hui, entre 17h30 et 18h, tout simplement. Très bonne soirée.
Bonne soirée.